I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulard Affût. Ravi de vous retrouver pour l'épisode 20 de la saison 6, pardon, avec toujours à mes côtés Arnaud Beurdelet, journaliste Midi Olympique. Salut Arnaud.
Salut Raph, bonjour à toutes et bonjour à tous. Poulard Affût, vous le savez, hein, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large, surtout en travers. Au menu aujourd'hui, d'abord, comme chaque semaine, Raph nous servira son humeur du jour. Ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir le demi de mêlée international de Lyon, Baptiste Couillou. Celui-là même qui s'était jeté dans la Seine avec le trophée du tournoi Destination au mois de mars dernier après le grand chelem des Bleus. L'occasion de découvrir un peu plus la personnalité qui se cache derrière ce talent du rugby français. Enfin, dans la troisième partie, place au débrief façon Poulain-Raffut. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Alors, vous êtes prêts ? Poulain-Raffut, saison 6, épisode 20, c'est parti. Allez Raph, aujourd'hui il va être question de générosité. Tu voulais revenir évidemment sur cette opération que la Ligue nationale de rugby a entrepris avec les Restos du Cœur et ces maillots notamment qui sont mis aux enchères pour récolter des fonds à destination de cette très belle association.
Oui Arnaud, tu as un peu tout dit. Ça fait 2 ans maintenant que la Ligue nationale de rugby soutient les Restos du Cœur en vendant aux enchères jusqu'à dimanche dernier 300 maillots portés lors de la 13e journée du championnat pendant les fêtes de Noël. L'objectif est de battre le record de 90 000 repas financés en 2021. Nous aurons le résultat très bientôt, mais je voulais mettre en lumière les initiatives justement prises par les instances, par les joueuses, par les joueurs pour porter les couleurs et les valeurs des associations qui leur sont chères et dont ils sont marraines et parrains. Nous, on avait parlé ici même avec Julien Bonner, mais presque tous les joueurs sont au soutien ou s'investissent d'une manière ou d'une autre dans une association. Moi, j'ai eu la chance d'être sollicité pour un maillot pour la vie à l'époque, pour aller dans les hôpitaux et donner un peu le sourire aux enfants malades, alors qu'ils n'avaient aucune idée de qui j'étais en fait et qui ils avaient face à eux. Mais ça a apporté justement un peu de bonheur et ils étaient heureux. Et puis, ça calme aussi, ça amène un tantinet d'humilité dans un sport où la notoriété peut rarement, mais parfois, te faire attraper le melon. Moi, j'avoue qu'à 20 ans, ça m'a mis une belle claque alors que je vivais une petite ascension d'ego au milieu des stades pleins. Ce petit rappel à la réalité permet de garder les pieds sur terre et de se dire que même si on le mérite et qu'on s'est bougé la paillasse pour vivre de nos rêves, nous sommes des privilégiés. Alors, dites-vous, chers sportives et chers sportifs, que vous êtes des sources d'inspiration pour le commun des mortels que nous sommes et qu'en voyant certaines initiatives portées par vos carrières, par votre temps donné et votre image, eh bien, ça inspire et ça nous pousse à venir, nous aussi, en Inde. Alors, mesdames et messieurs, professionnels du sport et du rugby en particulier, continuez à rester au contact, à être au soutien de celles et ceux qui en ont le plus besoin, et vous serez, aux yeux des nécessiteux, de véritables héros, bien plus glorieux encore qu'en étant sur le terrain.
Allez, deuxième partie de Poulain Raffut. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Baptiste Couillou, demi de mêlée international du Loup, un demi de mêlée dont on dit qu'il coche toutes les cases pour être un des plus grands à ce poste, notamment ce petit coquin très important au poste de demi de mêlée. C'est ce côté que tu avais envie de découvrir, Raph, il me semble, c'est bien ça?
Ouais, Arnaud, on a tous en tête les noms des demi de mêlée, comme tu disais, coquin capable de faire découbiller n'importe quel type sur un terrain, capable de roublardise, comme on dit, un vrai talent quand on joue à ce poste. Et je revois encore Baptiste Couillou l'an passé dire à l'arbitre du match Biarritz-Lyon, non mais oh, il a été éduqué où celui-là, en parlant de son frangin. Donc celle-ci, j'aimerais bien qu'on vienne dessus, parce qu'on t'a pas entendu, Baptiste, parler de ça. Est-ce que ce genre de petite anecdote plutôt sympa, ça dénote un peu de ta personnalité? J'ai tenté d'avoir des dossiers sur toi. J'ai notamment essayé de sonder un grand roux, mais je ne balancerai pas son nom, mais il n'a pas voulu me répondre. Tu vois, il m'a dit, j'ai trop de dossiers, mais j'en ai pas. Donc moi, je vais déjà commencer par là. Est-ce que ça dénote de ta personnalité, Moi, ça m'a fait marrer quand même.
Ouais, bonjour à tous. Ouais, c'est sûr. Après. J'ai été au courant que tu cherchais un peu des informations à droite, à gauche, tu m'as prévenu. Mais bon, je suis content parce que moi, je me rends bien compte que mes avants, ils essaient de me protéger un petit peu. Donc, c'est bien, je suis content de ça. Alors après, ouais, pour l'épisode avec mon petit frère, c'est sûr que ouais, c'est un peu comme je suis, surtout avec lui. On est bien chambreur et je pense que surtout ce match-là, on l'avait anticipé un petit peu, on l'avait bien préparé. Et moi, j'étais prêt à lui mettre 2-3 piques quand même pour... pour que le match se passe bien pour lui.
Et on va parler juste de la fratrie quand même. On a parlé avec Max Lucu de son rapport avec son frangin. Quel est le rapport avec le tien? Il y a peu de fratries, enfin il y en a de plus en plus, tu me diras, mais il y a quelques fratries. Moi j'ai connu les frères Bergamasco à l'époque où tu venais de naître à peu près, je crois 17, où tu les as vus jouer. Mais parlons un peu de cette intimité avec ton frangin. Ça doit être spécial quand même d'être le grand frère d'un mec qui joue aussi à haut niveau.
Ouais, c'est très spécial, d'autant plus, je pense, pour nous, parce qu'on a eu un parcours assez similaire. En fait, il a démarré au Loup avec moi. Enfin, on est très proches en termes de différence d'âge. Il a joué demi de mêlée aussi. Enfin, il joue toujours demi de mêlée. On a eu le même parcours scolaire, ce qui a fait qu'il y a eu un moment dans notre scolarité où on s'est retrouvés ensemble en cours parce que j'avais pris 2 années de retard. Donc finalement, c'était énorme, on s'est suivis, on se retrouvait à s'entraîner ensemble, à aller en cours ensemble, et c'était génial. Et aujourd'hui, je suis super content que lui s'épanouisse aussi dans un autre club à haut niveau. Et ça, pour nous, dans notre relation, c'est hyper important et c'est hyper sain, parce qu'on peut partager énormément de choses et on se comprend, quoi.
Tu as débuté à très très haut niveau, très très rapidement quand même, et tu as toujours eu ce leadership assez naturel. Ça te vient d'où, ça, justement? Enfin, ça vous vient d'où? Parce que ton frangin aussi, hein, quand on le regarde jouer... Ça vous vient d'où ce caractère spécial?
Ouais, c'est vrai qu'on a toujours eu des caractères assez forts, et je pense que c'est aussi peut-être le fait d'avoir grandi un peu dans la compétitivité avec un frère qui avait les mêmes qualités que moi et qui était très rapproché. Je pense qu'on a toujours voulu tirer le meilleur l'un de l'autre, et ça, c'est quelque chose qui nous a servi aujourd'hui. Puis forcément, je pense que notre poste, il nous oblige pratiquement à avoir ce genre de qualité-là. Et je pense que mon frère en a encore plus que moi. Je pense que c'est il a plus ses qualités de leadership que moi. Mais oui, c'est vrai que par rapport à ça, on se ressemble et ça nous vient de l'enfance, ouais, tout simplement.
Bon, avant que vous poursuiviez vos échanges, messieurs, je vous propose, Raph, que tu nous dresses le portrait de Baptiste. Couillou façon Poulain Raffut, c'est maintenant.
J'ai fait simple, hein, Baptiste. J'avoue que tu as un peu la gueule du gendre idéal, mais j'imagine sous couvert de professionnalisme, certaines conneries au coin du regard. Et autant en termes de pronostics, je te l'ai dit, de statistiques et de stratégie, je suis une pompe à roulettes. Autant en ce qui concerne le fond du bus et ses acteurs, je me trompe rarement quand même. À tout juste 25 ans, tu es fidèle du club rodanien qui t'a vu naître en tant qu'homme et surtout en tant que joueur, mettant sur le banc à tout juste 19 ans les Figuerola et autres Nico Durand. On le sait moins. Mais tu aussi, alors je doute un peu de ce que je vais dire là quand même, parce que tu m'as dit que tu avais redoublé 2 fois, mais j'ai quand même noté, on le sait moins, mais tu es aussi titulaire du baccalauréat S avec mention bien et d'un DUT de génie civil à l'Université de Lyon. Moi qui ne suis titulaire que d'un doctorat de conneries option 3e, voire 4e mi-temps, ça me laisse rêveur. Comme quoi, on peut être joueur de rugby et avoir un cerveau bien fait. Ajouter à cela un titre de champion de Pro D2, un titre de Challenge Cup et 11 sélections avec le 15 de France, passé par toutes les sélections jeunes, tu es un pur produit lyonnais, et on va en parler. Mais avant tout, je voudrais juste, donc, on va revenir à tes débuts, à tes 19 ans justement, d'être passé devant Durand et Figuerola, mais ils existent bien ces diplômes.
Ouais, non, ils existent bien.
T'as pas créé
bien.
Ta page Wikipédia ou t'as pas été te vendre
Non, hein. Non, oui, c'est quand je dis que j'ai redoublé, en fait, mes années, elles étaient coupées en deux, parce que vu que je commençais à jouer avec l'effectif professionnel, j'allais en cours que l'après-midi, donc j'ai tout coupé en deux, et sur ma dernière année, je me suis retrouvé avec mon frère, et c'est pour ça que je dis que j'ai eu 2 ans de retard, en fait.
D'accord. Comment tu expliques que Pierre Boutonni, manager du Loup, te fasse confiance si rapidement et on va dire surtout face à 2 confirmés, je l'ai dit, Figuerola et Nico Durand, qui étaient un peu sur la fin aussi. Donc, comment on acquiert cette confiance à tout juste 19 ans?
Je pense que malgré tout, je suis arrivé à la bonne période. Mon intégration au rugby professionnel s'est faite au bon moment parce qu'en fait… déjà, il y avait eu le renouvellement d'un staff et d'un effectif à ce moment-là qui était assez conséquent. Il y avait Pierre Mignoni qui venait d'arriver au club. Et l'année où il m'a fait démarrer sur la saison où on est champion de Pro D2, on avait une avance confortable en deuxième division et il a eu l'opportunité de lancer les jeunes. Et après, la transition avec Augustine Figuerola et Nico Durand, il y avait même Mathieu Loré à l'époque, elle a été encore plus facilitée parce que c'était les trois, c'était des joueurs qui étaient sur la fin de carrière en fait. Et donc, quelque part, la transition, elle s'est faite pratiquement naturellement. C'était, je pense, une opportunité aussi pour Pierre à l'époque d'avoir un jeune du centre de formation dans son effectif qui puisse faire grandir et sur qui il pouvait compter sur les saisons à venir. Donc, ça s'est fait un peu comme ça. Moi, je pense honnêtement que déjà, j'ai eu la chance de tomber sur un manager comme Pierre parce que, évidemment, il avait, je pense, un affectif particulier avec les demi de mêlée. Donc, ça, c'était bien. Et je suis tombé à une période où, ben, quelque part, il avait l'opportunité de lancer des jeunes et c'était le bon moment, quoi. Sur la fin de l'année de Pro D2, on était largement devant au championnat et c'était la bonne occasion pour lui, quoi.
Justement, tu parles beaucoup de Pierre Baptiste. En quoi il a été précieux dans ta progression? On sait que ça a été quand même un grand demi-mêlé. Il a été international, il a fait une Coupe du Monde, enfin plusieurs Coupes du Monde d'ailleurs. En quoi finalement il a été, j'ai envie de dire, décisif finalement dans cette marche à franchir qui est toujours très difficile de s'installer durablement au plus haut niveau?
Je pense que bon, c'est assez clair quand on entend Pierre parler. C'est quelqu'un qui est très exigeant déjà envers lui-même et avec ses équipes. Et en tout cas, quand j'ai démarré, je pense qu'il ne m'a jamais fait de cadeau, mais il m'a toujours fait confiance. C'est-à-dire qu'il ne m'a jamais rien laissé passer quand je faisais des erreurs sur le terrain et en dehors. Mais en revanche, il m'a toujours soutenu. Et ça, je pense que c'était, à mon avis, c'est sa principale qualité à Pierre d'être cette personne vachement humaine qui a son management vachement autour des relations avec ses joueurs. Et je pense qu'on a été plusieurs, et moi aussi quelque part, à avoir fait des petits détours dans notre carrière d'homme ou de joueur, mais il a toujours su nous soutenir et nous prendre un peu par la main de temps en temps en nous remettant sur le droit chemin. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi que, pour moi, c'est un entraîneur qui a compté et en qui j'avais entièrement confiance, quoi.
Ça doit être difficile quand même des fois avec Pierre Mignoni, parce que quand on le voit sur le bord du terrain, il est quand même nerveux. Donc quand on prend une soufflante par Mignoni, ça doit un peu faire frissonner, non, quand même. Vous lui offrez une camomille de temps en temps à Pierre?
Ah ouais, non, mais les premières que j'ai prises, je m'en souviens encore. Hein. C'est vrai que de temps en temps, le lundi au centre d'entraînement, tu rasais les murs, hein, c'est sûr. Mais bon, on était tous dans le même cas, donc ça va. Tant qu'il tapait sur un autre, ça allait.
Est-ce que plus jeune, tu avais des modèles justement à ce poste-là, en demi-mêlée? Je te rappelle, on est tu es de 97, donc dans les années 2000, voire 2010 plutôt.
Eh ben, oui, j'ai eu des modèles, mais quand j'étais jeune, je jouais plutôt à l'ouverture. Et j'adorais les joueurs comme Brock James, justement, à l'ASM, parce qu'à cette époque-là, c'est vrai qu'ils avaient un effectif hyper complet. Et pour moi, c'était lui mon idole. Après, à la mêlée, forcément, il y a eu énormément de grands joueurs, mais je ne vais pas dire que j'ai eu particulièrement un idole. J'ai eu la chance de côtoyer des mecs comme Fred Michalak à mes débuts au Loup aussi. Donc ça, c'est des choses qui ont compté dans mon parcours. Mais si je dois citer un joueur, c'est plutôt Brock James à l'ouverture.
Et aujourd'hui, tu as une référence, justement, Baptiste. Est-ce qu'il y a un mec dont tu regardes les matchs, dont tu essayes de dépier un peu la façon dont il joue à ce poste?
Oui, je pense qu'aujourd'hui, le rugby est fourni de plein de bons joueurs à ce poste. Et je pense qu'en l'occurrence, en France, on a la chance d'avoir
une tripotée.
Voilà, de très bons demi de mêlée. Et à mon avis, il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin pour trouver ce qui se fait de mieux, ce qui se fait de mieux au monde. Donc, ceux qu'on connaît, Antoine et Max, sont des références aujourd'hui à leur poste. Donc, c'est sûr qu'ils sont très bons. Et après, moi, j'apprécie aussi des profils un peu différents qu'on retrouve en Angleterre, comme le petit Harry Randall ou même le demi-mêlée des Wasps, enfin, demi-mêlée de Pau aujourd'hui, Robson, que je trouve très bon et qui ont des qualités assez différentes, mais j'adore aussi.
Le petit Rory Cocotte aussi, non?
Ah, ouais. Un peu plus briscard, celui-là, quand même.
Alors pour toi, justement, c'est quoi les qualités essentielles pour être un grand demi-mêlée? Alors là, je t'en ai cité un, Royer Cocotte, c'est la caricature des caricatures du mec qui parle dans la bouche. Ça doit être un boucan sur le terrain. Mais quelles sont les qualités essentielles aujourd'hui pour jouer à très haut niveau?
Je pense qu'on en a parlé un peu plus tôt, mais il faut absolument désormais du leadership, être capable de, d'avoir un impact stratégique sur un match, parce que ça compte trop en ce moment. Et puis après, il faut quand même maîtriser techniquement, avoir des qualités de vitesse. À mon sens, aujourd'hui, si on veut être pesé sur les défenses adverses, il faut être capable d'être menaçant et donc d'être dangereux autour des rugs, d'être rapide. Et puis, après, il y a des profils tout à fait différents qui réussissent dans le rugby de haut niveau à ce poste-là aujourd'hui. Mais je pense qu'on est obligé d'être très complet et que ce soit à la main, au pied, ou sur nos qualités physiques, on n'a pas trop le droit d'avoir des défauts aujourd'hui quand même.
On dit que tu es un coquin aussi, Baptiste. Un coquin discret, malin. Tu confirmes ou pas?
Un peu filou, forcément. Je suis demi de mêlée, donc il faut quand même que j'arrive à tirer mon épingle du jeu de temps en temps.
Quand vous parlez rugby, les gars, moi, comme j'ai dit, j'étais plus situé en troisième mi-temps de part mon parcours et on ne va pas le refaire. Moi, je veux savoir, en troisième mi-temps, comment ça se passe? Comment, qu'est-ce qui se passe? Visiblement, qu'est-ce qui t'a pris sur du titre de plonger dans la... j'allais dire dans la mer, non, dans la rivière, là, avec le trophée. Mais je trouve ça génial. C'est génial.
Je rappelle que c'est la Seine à Paris, quand même. Hein.
Dans la rivière.
En plein mois de mars, hein, accessoirement.
Ouais, bah, je l'avais bien regretté ce soir-là. Non, mais c'est vrai qu'on avait rigolé de ça un peu avant le match, parce que nous, avec Gaëtan Barlow, on voyait ça un peu de l'extérieur, enfin, en étant avec le groupe, mais c'est vrai qu'on avait le temps de rigoler. Et bon, bah, ce soir-là, après, je n'étais pas tout à fait lucide non plus, hein, on va se l'avouer. J'avais sauté dans la Seine et ouais, forcément, j'ai eu peur déjà de faire couler le trophée. Et je l'avais bien regretté. J'étais chaud bouillant et 30 minutes après, j'étais de retour à l'hôtel tellement j'avais froid. Donc, au moins, c'était clair.
Mais à aucun moment, tu t'es posé la question de savoir si tu allais pouvoir remonter quand même?
J'ai envie de répondre si, parce que j'ai envie de rester quand même sérieux devant la caméra. Mais à ce moment-là, je ne sais plus si je m'étais posé cette question.
Et dis-moi, le rugby a sacrément évolué depuis ma génération. Et voilà, ça fait 15 piges. Hein, on ne va pas revenir en arrière. Moi, j'aimerais savoir, et sans vouloir rentrer dans l'intimité du vestiaire, des troisièmes mi-temps, mais elles existent toujours, même s'il y en a moins, elles existent toujours, rassure-nous, parce qu'on voit beaucoup de sérieux. Là, tu vois, ça détonne. Il y a ce moment-là, tu vois, de fête aussi, on a beaucoup parlé de Forletta aussi après le titre de Montpellier. Mais nous, à l'époque, c'était tout le temps. Est-ce que, moins souvent, mais ça existe toujours. Comment ça se passe, une brinque? Sans rentrer dans les détails, hein, loin de là, mais non, une brinque type pour toi, une bonne brinque type.
Ah oui, non, mais ça existe. Bien sûr que ça existe. Je pense que, enfin, on compte plus sur les doigts d'une main les soirs où on ne fait pas la fête après un match plutôt que l'inverse, hein, forcément. Donc oui, on en profite. Après, il y a forcément des fois où on est obligé d'être un peu plus mesuré parce que ben, tu ne fais pas forcément des bons matchs, tu ne gagnes pas tout le temps. Mais au contraire, des fois, tu as tendance à te dire qu'après une bonne défaite, c'est bien d'aller se faire une bonne brinque. Donc nous, à Lyon, on a de la chance parce que ben, on a de quoi faire déjà au stade. Honnêtement, le club, il assure pour en ce qui concerne les troisièmes mi-temps. Je pense que là, des fois, on n'a pas besoin d'aller bien loin. Puis après, il y a un paquet d'endroits où on sait comment faire la fête aussi à Lyon. Et on en profite pratiquement après tous les matchs, ouais, c'est clair.
Et puis, tu es originaire du coin en plus, donc tu dois connaître un peu les 1.
En plus.
Juste pour conclure sur l'épisode du trophée, à aucun moment, tu t'es fait engueuler quand même?
Non, aucun moment. Mais il n'y avait pas grand monde qui l'avait vu, heureusement. Et puis, je l'ai remonté. J'ai eu peur de perdre le haut. Mais finalement, ça a pris un peu le haut. J'ai tiré. Et puis, Yoram Moefana était venu m'aider, heureusement. Et il m'avait sorti de l'eau.
On va parler un petit peu sport quand même. Comment ça va aujourd'hui? On aurait peut-être dû commencer par là, déjà, de savoir comment tu es allé. Tu as un problème au cervical. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui?
Ouais, petite hernie cervicale. Bah, c'est un peu... un peu particulier pour un nid de mêlée, c'est plus généralement les premières lignes qu'on ça, mais non, ça va. Je pense que c'est pas très important. À mon avis, c'est une question de quelques semaines. Ça commence déjà à aller bien mieux, mais voilà, c'était quelque chose qui traînait. Ça faisait 2-3 semaines que j'avais des douleurs dans le bras. Le nerf était un peu pincé, donc il fallait quand même faire attention. Et voilà, aujourd'hui, ça va quand même.
Pas d'inquiétude pour le tournoi à destination, Baptiste?
Non, je pense que je vais pouvoir revenir à la compétition avec mon club très rapidement. Donc après, voilà, à disposition du staff pour être dispo.
Donc si je comprends, tu rêvais de faire carrière au Loup, ou tu rêvais de faire carrière d'être rugbyman professionnel? Et si oui, est-ce que tu avais un référent justement au Loup à l'époque des années 2000-2010? Tu avais un joueur à me citer, un mec qui t'a marqué quand tu étais enfant, tu vois, de 7 à 10 ans? Moi, c'était des jumeaux à Beauvais, tu vois, c'était pas Domi, ouais. C'était des jumeaux à Beauvais. Si tu avais un mec à me citer...
Moi, devenir rugbyman professionnel, ça n'avait jamais été un rêve jusqu'à ce que j'ai la chance de jouer à mes 18 ans, parce que j'avais toujours estimé que j'allais pas avoir les qualités pour le faire. Bon, par chance, j'y suis arrivé, mais c'est vrai que je suis toujours allé au stade à Viormais à l'époque, à Lyon. Donc, c'était bon, il y en a eu deux depuis, mais ouais, j'allais voir tous les matchs, et à l'époque, il y avait déjà Romain Loursac qui jouait. C'est toujours notre docteur au club. Et c'est quelqu'un que j'admirais, toujours détenteur du nombre de points marqués à Lyon. Et voilà, je pense que ça, c'est des joueurs qui marquent aussi quand on est jeune. Lui aussi, il a eu un parcours scolaire assez remarquable en ayant fait médecine. Et forcément, oui, c'est inspirant. Et d'autant plus que voilà, il a su faire son bout de chemin à Lyon. Au-delà d'avoir été un rugbyman, de devenir médecin et d'être toujours aujourd'hui à nous accompagner, c'est quelqu'un qui nous inspirait quand on était jeune.
Baptiste, oui, vas-y, pardon.
Savoir si justement tu parlais des études et on en parle beaucoup aussi ici. On pense à l'après déjà à 25 ans ou est-ce qu'on essaie d'anticiper on pense, on parle du double projet beaucoup chez les jeunes, mais est-ce qu'il y a une volonté ou la fameuse appétence, j'adore ce mot, la fameuse appétence pour le monde d'après, pour le monde un peu plus normal que la vie de rugbyman?
Ouais, carrément, oui, je pense que moi, c'est quelque chose qui me travaille aussi au quotidien parce que, comme je l'ai dit, j'ai pendant longtemps fait des études à côté du rugby. Enfin, ça m'a duré 5 ans pendant que j'étais au centre d'information et je pense que c'était principalement une des choses qui m'a permis de maintenir un équilibre dans ce que j'étais en tant que rugbyman. Et aujourd'hui, je considère que c'est absolument quelque chose qu'il faut que je parvienne à atteindre en parallèle de ma carrière de rugbyman. Je trouve que d'avoir une autre activité qui permette de penser à autre chose, de se découvrir aussi dans d'autres secteurs d'activité, c'est intéressant. Et puis forcément, ça te prépare à l'après. Alors, moi, je me dis toujours que je n'ai pas envie de me fixer un secteur d'activité, de me dire après ma carrière, je ferai ça. Mais j'aime bien me laisser quelques portes ouvertes et me dire que voilà, j'ai trouvé potentiellement des secteurs qui pourraient m'intéresser. Si un jour j'ai envie de faire ça après ma carrière, bah tant mieux. Si j'ai envie de rester dans le rugby, je resterai dans le rugby. Et si j'ai envie de basculer complètement, je serai en capacité de le faire. Donc, évidemment, on pense à ça aujourd'hui. Bien sûr, la priorité, c'est le rugby. Mais moi, je pense que c'est important de maintenir cet équilibre au quotidien pour rester un bon joueur de rugby et un homme bon, quoi, tout simplement.
Pour conclure, Baptiste, justement, puisque c'est vrai que Raph, c'est une thématique qu'il avait abordée, tu te vois faire quoi dans 15 ans ?
C'est justement ça. Je pense que j'ai du mal à me projeter à horizon 15 ans parce que je me dis qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer. Et je sais très bien que malgré tout, le rugby, c'est une passion, c'est un secteur d'activité qui me plaît. Et je pense que j'ai des perspectives d'évolution dans ce milieu-là, c'est sûr. Après, moi, j'adore le secteur du bâtiment et des travaux publics. C'est dans ça que j'ai fait mes études. Et voilà, aujourd'hui, je garde un pied dedans en parallèle de ma carrière de rugbyman parce que je me dis que c'est important aussi de pas perdre de vue ce secteur d'activité et à la fin de ma carrière, d'avoir une potentielle légitimité si je veux y retourner, quoi, tout simplement.
Jusqu'au 30 janvier, on souhaite toujours la bonne année quand on se rencontre. Voilà, la bonne année. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année ? Alors déjà, un retour sur le terrain dans les semaines qui arrivent. Il y a le tournoi Destination, on en a un peu parlé. Il y a la Coupe du Monde aussi qui arrive. On ne va pas se projeter dans 15 ans dans le bâtiment, mais là déjà, à 6-8 mois quand même.
Oui, il y a énormément d'échéances qui arrivent, que ce soit au niveau du club ou au niveau de l'équipe de France. Donc, si on peut me souhaiter ça, c'est bien. Et puis surtout, la santé, je pense qu'aujourd'hui, c'est primordial. J'ai besoin d'être en forme et de performer régulièrement. Donc oui, c'est le plus important.
Baptiste, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps. L'idée, c'était évidemment de te découvrir via une autre facette. Merci donc d'avoir accepté de te confesser auprès de l'abbé Raph Poulain. Raph, on va enchaîner, nous, avec la troisième partie tout de suite dans Poulain Raffut. Allez, troisième partie dans Poulain Raffut. Raph, tu voulais revenir sur la sortie la récente sortie de Maxime Mermoz à propos de l'ancien sélectionneur Philippe Saint-André. Je rappelle les propos assez virulents de l'ancien trois-quarts centre. Je savais que c'était un baltringue, un lâche. Des propos tenus dans le cadre du podcast En terrain conquis. Visiblement, ça ne t'a pas beaucoup plu. Pourtant, toi, à l'époque, il me semble qu'après ta carrière, tu avais tenu des propos aussi très sévères à l'égard du sélectionneur Fabien Galthié, qui avait été ton entraîneur au Stade français.
Ouais, alors déjà, baltringue justement, et ça fait un peu échapper, sauf que le mec utilise justement les réseaux sociaux pour régler ses comptes, donc d'insulter un mec, voilà, c'est pas la première fois en plus pour Maxime Mermoz. Il avait déjà tenté de régler ses comptes sur une soirée qui s'était passée aussi, où il avait échangé des messages avec Jalibert et Woki notamment. Bon voilà, je trouve que c'est des règlements de compte en fait qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui. On n'est pas dans Voici, je l'avais déjà dit la dernière fois, à la différence de ce que fait Max Mermoz aujourd'hui avec PSA, avec Philippe Saint-André. Fabien, je suis allé le voir en face. C'est-à-dire, je lui ai dit les choses en face et je me suis permis de parler de harcèlement moral parce que ça ne m'était pas arrivé qu'à moi et qu'on était nombreux justement et que j'avais pris la parole au nom de beaucoup qui n'osaient pas prendre la parole à l'époque parce qu'ils étaient encore dans le milieu. Forcé de constater que Philippe Saint-André est un bon entraîneur vu qu'il gagne encore aujourd'hui. En équipe de France, c'était plus compliqué. Moi, ce qui m'est m'énerve, c'est le fond, c'est pas la forme. Mais va voir le mec, va lui parler dans la bouche. Si tu considères justement que tu es dans un sport justement de gentleman où tu es entre guillemets un homme, à la fois dans les clichés un peu viril, les couilles du cœur, bah, du courage, c'est d'aller le voir en face et d'aller régler tes comptes plutôt que de prendre un podcast qui tente de faire le buzz pour aller balancer des mots. Alors, est-ce que c'est sorti de son contexte? Je ne sais pas, mais c'est quand même la deuxième fois. Donc, est-ce que le mec a du mal à exister après le rugby? Je sais que c'est très compliqué d'exister après le rugby, de se trouver différemment. Alors, le seul conseil que je peux lui donner, moi, du haut de mes 42 piges, ayant arrêté depuis quelques années, on parlait d'associatif. J'ai eu la chance, après ma carrière, d'aller travailler dans les Restos du Cœur et ça m'a beaucoup calmé. Ben, je lui conseille justement de peut-être aller travailler dans l'associatif. Ça calmera un petit peu son ego. Et puis voilà, Philippe Saint-André, je lui souhaite en tout cas une très très bonne saison. On a adoré le recevoir ici. Et si Max a envie de venir régler justement ses comptes, on peut lui ouvrir, mais je pense que je ne sais pas s'il aura vraiment le courage de venir jusqu'ici. On verra bien. On peut tenter. En attendant, j'ai trouvé ça tellement déplacé que je vais fermer ma gueule parce que je risquerai comme lui d'être vulgaire.
Allez, on lui lancera l'invitation si toutefois il a envie de venir. Pour conclure, Raph, une nouvelle terrible. Matteo Ibáñez, hein, le fils du manager du 15 de France, Raphaël Ibáñez, a annoncé mettre un terme à sa carrière avec le club de Blagnac qui évolue en national. Il a annoncé souffrir d'une leucémie. Évidemment, Raph, tu voulais lui adresser un message.
Bien sûr, déjà à Matteo, son fils, que je ne connais pas du tout, mais on a tous appris la nouvelle. Et puis, quand le milieu du rugby, en tout cas, quand un joueur ou une joueuse est touché, on a envie d'être au soutien, bien entendu, de lui, notamment, principalement, et aussi de son papa, de Raphaël, avec qui j'ai eu la chance de, contre qui j'ai eu la chance de jouer, très, très grand joueur, qui, on le rappelle, il y a quelques mois, a perdu aussi un ami dans des circonstances assez, assez difficiles. Donc, voilà, on prend tous et toutes des claques dans la vie. Quand ça touche les enfants, c'est d'autant plus compliqué. Donc, on peut lui envoyer que les meilleures ondes, en tout cas, pour revenir déjà en santé. Alors là, justement, on dit bonne année, bonne santé. Quand on est touché de près ou de loin par ce genre de situation, c'est très difficile. Moi, j'ai deux garçons, donc voilà, j'ai une grande, grande pensée à la fois pour Raphaël et bien sûr pour son fils et puis toute la famille derrière. Et voilà, au soutien déjà par les mots et puis on lui envoie nos meilleures pensées et la meilleure année possible pour peut-être un jour revenir sur le terrain en attendant de revenir de cette maladie.
Ouais, on souhaite évidemment à Matteo le plus grand des courages pour affronter cette maladie et surtout la vaincre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, Raph. Merci encore de nous écouter, d'être aussi nombreux de nous écouter sur les plateformes d'Eurosport. Pour la RAFUT, c'est terminé. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, toujours avec la banane.
Ouais, merci beaucoup Arnaud, merci aussi à Sébastien qui a la réalisation de cette émission, et puis encore une très très bonne année, on vous le dira jusqu'au 31 janvier, on sera lourd, mais on vous le dira, bonne année et surtout la santé. À très bientôt, salut.